Le cabochon d'émeraude. D'après Maurice Leblanc.
Vraiment, ma chère Olga, vous parlez de lui comme si vous le connaissiez.
La princesse Olga sourit au groupe de ses amis. Ce soir-là, elle fumait et devisait entre elles dans son salon. Et elle leur dit
« Mon Dieu, oui, je le connais. Vous connaissez Arsène Lupin ?»«
Parfaitement.
Est-ce possible ?»«
J'ai connu tout au moins quelqu'un qui s'amusait à jouer au détective pour le compte de l'agence Barnett. Or, il est démontré aujourd'hui que Jim Barnett et tous les collaborateurs de son agence de renseignement n'étaient autres qu'Arsène Lupin. » Par conséquent...
Et il vous a volé ?
Oh, au contraire, il m'a rendu service.
Oh, mais c'est toute une aventure !
Nullement. Ce fut une paisible conversation d'une demi-heure peut-être, sans coup de théâtre. Mais durant ces 30 minutes, j'ai eu l'impression que je me trouvais en face d'un personnage vraiment extraordinaire, ayant des façons d'agir à la fois très simples et déconcertante.
On la pressa de questions. Elle n'y répondit pas tout de suite. C'était une femme qui parlait peu d'elle et dont la vie restait assez mystérieuse, même pour ses amis intimes. Avait-elle aimé depuis la mort de son mari? Avait-elle cédé à la passion de quelques-uns de ces hommes qu'attirait son ardente beauté, ses cheveux blonds et ses 12 yeux bleus? On le croyait. Les méchantes langues la disaient même capable de fantaisie, où il y avait parfois plus de curiosité que d'amour. Mais au fond, on ne savait rien. Aucun nom ne pouvait être cité. Plus expansive pourtant ce jour-là, elle ne se fit pas trop prier et souleva un petit coin du voile.
Après tout, pourquoi ne pas vous raconter cette entrevue ? Si je dois mêler à mon récit une autre personne, le rôle qui joua celle-ci n'a rien qui m'oblige au silence. J'en parlerai d'ailleurs très brièvement, puisque, après tout, c'est Arsène Lupin seul qui vous intéresse, n'est-ce pas? Et donc, à cette époque, et pour résumer l'aventure en une phrase dont vous comprendrez toute la signification, j'avais inspiré un amour violent et sincère. J'ai le droit d'employer ces mots à un homme dont le nom de famille tout au moins vous est connu, Maxime d'Hervinol.
Les amis d'Olga sursautèrent.
Maxime d'Hervinol, le fils du banquier?
Oui.
Le fils du banquier faussaire, escroc, qui s'est pendu dans sa cellule de la santé le lendemain de son arrestation?
Oui.
Répéta la princesse Olga très calmement. Et après avoir réfléchi un instant, elle reprit.
Cliente du banquier d'Hervinol, j'étais une de ses principales victimes. Peu de temps après le suicide de son père, Maxime, que je connaissais, vint me voir. Riche par son propre travail, il se proposait de désintéresser tous les créanciers et me demandait seulement certains arrangements qui l'obligèrent à revenir chez moi plusieurs fois. Oh, l'homme, je l'avoue, m'avait toujours été sympathique. Il me le fut davantage encore par l'extrême dignité de sa tenue. L'acte de probité qu'il accomplissait lui semblait évidemment tout naturel. Et d'autre part, bien qu'il ne manifestât aucun embarras et que l'infamie de son père ne pût l'atteindre, on sentait en lui une souffrance infinie et une blessure secrète que la moindre parole irritait. Je l'accueillis comme un ami qui ne tarda pas à devenir amoureux, sans que jamais il fît allusion à cet amour que je voyais grandir chaque jour. S'il n'y avait pas eu la déchéance de son père, il m'eût certainement demandé en mariage, mais il n'osa pas plus qu'il n'osa se déclarer, ni m'interroger sur mes propres sentiments. Qu'aurais-je répondu, d'ailleurs? Je les ignorais. Un matin,
nous déjeunâmes au bois. Après quoi, il me suivit ici, dans ce salon même. Il était soucieux. Je déposai mon sac à main sur le guéridon, ainsi que toutes mes bagues, et je me mis au piano, sur son désir, pour y jouer des airs russes qu'il affectionnait. Il écouta, debout derrière moi, avec une émotion que je devinais. Quand je me relevai, je vis qu'il était tout pâle, et je pensais qu'il allait parler. Tout en l'observant, et troublé, moi aussi, je le confesse, je repris mes bagues, les remis d'un geste distrait, et soudain, je m'interrompis et murmurai, beaucoup plus pour couper court à une situation gênante que pour exprimer mon étonnement à propos d'un fait banal. « Tiens, qu'est donc devenu mon émeraude ?» Je m'aperçus qu'il tressaillait, et il s'écria
« Votre belle émeraude ?»«
Oui, ce cabochon que vous aimez tant, lui dis-je, tout simplement d'ailleurs, car en vérité, aucune arrière-pensée ne se glissait en moi. »
« Mais vous l'aviez au doigt pendant le déjeuner ?»«
Sans aucun doute, mais comme je ne joue jamais du piano avec mes bagues, j'ai déposé celle-ci à cet endroit, auprès des autres. »«
Elle doit y être encore. »«
Elle n'y est pas. » Je remarquai que sa pâleur augmentait et qu'il demeurait dans une attitude rigide, avec une expression si bouleversée que je plaisantais. « Eh bien après, cela n'a aucune importance. » Elle a dû tomber quelque part.
Mais on la verrait.
Non, peut-être a-t-elle roulé sous un meuble. J'allongeai le bras vers le bouton d'une sonnette électrique, mais il me saisit le poignet, et d'un ton saccadé...
Une seconde, il faut attendre. Qu'allez-vous faire?
Sonner la femme de chambre.
Et pourquoi?
Mais pour chercher la bague.
Non, non, je ne veux pas, à aucun prix.
Et tout frémissant, le visage contracté, il me dit
« Personne n'entrera ici, et ni vous ni moi ne sortirons avant que l'émeraude ait été retrouvée. »
Et pour la retrouver, il faut chercher. Regardez donc derrière le piano.
« Non. »
« Pourquoi ?»«
Je ne sais pas, je ne sais pas. Et tout cela est pénible. »
« Il n'y a rien là de pénible. Ma bague est tombée. Il s'agit de la ramasser. Cherchons. »
Et je vous en prie.
Mais pour quelle raison? Expliquez-vous.
Eh bien, si je la retrouvais à cet endroit ou à un autre, vous pourriez croire que c'est moi qui, affectant de chercher, viens de les déposer.
Mais je ne vous soupçonne pas, Maxime.
Actuellement, non. Mais plus tard, vous sera-t-il possible d'échapper au doute?
Je compris toute sa pensée. Le fils du banquier d'Hervinol avait le droit d'être plus sensible et plus craintif qu'un autre. Si ma raison se révoltait contre l'offense d'une accusation, pourrais-je ne pas me souvenir qu'il se trouvait placé entre moi et le guéridon, tandis que j'étais au piano? Et déjà même, en cette minute où nous nous regardions au fond des yeux avec angoisse, est-ce que je ne m'étonnais pas de sa pâleur et de son désarroi? Oh. Un autre eût ri à sa place. Pourquoi ne riait-il pas? Vous avez tort, Maxime. Mais tout de même, il y a là de votre part un scrupule auquel je dois me soumettre. Donc, ne bougez pas. Je me baissai et jetai un coup d'œil entre le piano et le mur, et sous le secrétaire. Puis je me relevai. Rien, je ne vois rien. Il se tut. Son visage était décomposé. Alors, sous l'inspiration d'une idée, je repris. « Voulez-vous me laisser agir? Il me semble que l'on pourrait... »«
Oh, faites tout ce qu'il est possible de faire pour découvrir la vérité. Mais c'est un acte grave. Une imprudence pourrait tout perdre. N'agissez qu'en toute certitude. »